Sans transition, je vous invite à accueillir chaleureusement notre frère, pasteur, missionnaire, Philippe Adam, qui se présentera. C'est plus simple qu'il se présente lui-même. Le Seigneur a mis sur son cœur le désir d'accompagner un certain nombre d'églises au sein de notre fédération. Et je remercie Philippe qui n'a pas hésité un seul instant quand on s'est vu il y a déjà de nombreux mois en arrière. Que je lui ai dit, hey, je suis maintenant à Nîmes, Philippe. Est-ce que tu veux venir aussi à Nîmes? Nous parler de ce que tu as sur le cœur et de ce que tu fais avec les autres églises. Nous rappeler l'importance de faire des disciples qui font des disciples, du discipulat. Il a dit tout de suite, yes. Et si tu veux, je viens même avec une équipe. Non, tu reviendras. Aujourd'hui, on l'accueille avec joie. Seigneur, tu bénis Philippe. Merci pour son ministère fidèle depuis tant d'années parmi nous en France. Et merci pour ce que tu as mis sur son cœur. Nous sommes désireux, Seigneur, de recevoir au nom de Jésus. Amen. Après l'intervention de Philippe, on a pris du retard. Donc nous vous inviterons à être vraiment plus pragmatiques pour se repartir rapidement en petits groupes. Et ensuite, nous vous indiquerons pour les personnes qui vont, je rappelle, au réfectoire sous le truc. Et ici, quatre groupes qui resteront. So, thank you, Philippe.
Yeah.
Over to you.
Ah, merci. Mais bonjour. Je suis vraiment content d'être avec vous. La dernière fois que j'étais à CMLK, c'était il y a des années. Nos enfants étaient encore des ados. Donc, c'est vous dire, il y a longtemps. Et pour un congrès, d'ailleurs, qui s'est fait là dans les années 90. Mais c'est une joie d'être de retour avec vous. Et surtout d'avoir le privilège de partager avec vous aujourd'hui, pendant ce week-end, des choses qui, pour moi, ce n'est pas un partage et un enseignement que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais essayer de partager la manière que nous vivons depuis des années. Et vous inviter, vous aussi, à vivre d'une manière différente. À vivre avec une chose en tête. Quoi ? La mission pour Jésus. Alors, pourquoi la mission ? Alors, je vais commencer par, je suis donc marié, mon épouse s'appelle Jennifer, et nous sommes missionnaires depuis 41 ans. Donc, nous avons bourlingué un peu partout dans le monde, on a travaillé dans une quinzaine de pays déjà, des pays très variés, hein. On a fait 10 ans de zone de guerre comme missionnaire, Afghanistan, Niger, dans les pays de l'Ouest, en France, et en Afrique aussi, bon nombre de pays en Afrique. Donc, nous sommes passionnés par faire des disciples. C'est comme ça que depuis des années avec ma femme, nous fonctionnons. C'est notre manière d'être, de faire et d'agir. Et j'aimerais partager ça avec vous, parce que j'ai eu aussi le privilège d'avoir grandi dans une famille missionnaire. Mes parents ont fait 50 ans en France. Mes parents ont implanté plusieurs églises en France. Pour vous dire où ça a commencé, c'est ma mère qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale pour démarrer Jeunesse pour Christ à Paris. Et ma mère m'a raconté des histoires de plein air, des histoires de, littéralement, de personnes de conversion à Paris. Et c'est là que ça a démarré pour mes parents. Mon père, lui, il était soldat, envoyé par l'armée américaine, un conscrit, comme on dit, hein. Il n'avait pas le choix. Et il s'est retrouvé à Paris, à Fontainebleau. Et au milieu de ça, deux chrétiens, deux musiciens, se retrouvent à Paris et ils se sont fiancés à Paris et Dieu les a appelés à revenir en France. Alors, je ne suis pas missionnaire parce que mon père et mes parents l'étaient, je suis missionnaire parce que Dieu m'a appelé à l'être. Mais j'ai été formé par l'exemple de mes parents, des gens de foi qui n'ont pas eu peur d'aller où Dieu les appelait à aller. Ils n'ont pas eu peur de prendre des risques. Et ça m'a guidé dans notre manière de vivre avec mon épouse. Mon épouse, c'est une Américaine, moi je suis Américain, mais c'est une Américaine comme moi. On a un passeport bleu, mais on a vécu partout dans le monde. On vit jamais aux États-Unis. Elle est partie à 12 ans pour aller dans les îles du Pacifique avec le travail de son père. Donc nous avons toujours vécu dans d'autres cultures. Et les débuts de la conversion de ma femme ont commencé par être une disciple. Elle s'est convertie dans les îles Marshall en 1975, dans un lycée où il y avait 250 étudiants. Ah, imaginez ça, sur les 250 étudiants, il y en a 60 qui sont devenus des chrétiens. Ouais, il y a eu un réveil. Et au milieu de ce réveil, il y a des couples qui ont dit, il y a ces jeunes de 14-15 ans qui viennent à Jésus, et on les invite chez nous dans le salon, on ouvre les Bibles, on commence à découvrir comment servir Jésus ensemble. Elle a commencé sa vie chrétienne avec étant disciple d'aîné d'un couple qui était tout jeune, 30 ans. Mais qui ont accueilli 15-20 jeunes dans leur maison. Et tout d'un coup, ce n'était pas une maison, il y en avait plusieurs. Ils allaient au lycée, ils parlaient de Jésus à tous leurs amis. Ma femme a appris à servir Jésus-Christ en étant disciple à quelqu'un qui l'a formé, quelqu'un qui a été un exemple pour elle. Elle a dit, Joyce et John, c'est les deux, l'homme et la femme, elle a dit, ou Dottie et Phil, ah oui, non, je veux vivre comme eux, je veux les imiter, je veux servir Jésus comme lui, comme eux servent Jésus. Elle a commencé comme ça. Et je crois que dans nos églises, on a besoin de faire un changement de paradigme. Vous allez dire, ah ce beau paradigme, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement une façon de penser qui oriente notre manière d'agir. Donc, un paradigme, c'est une façon de penser qui oriente notre manière d'agir. Donc, ce que vous pensez actuellement aujourd'hui oriente votre manière d'agir dans votre vie de tous les jours. Et en fait, cette relation entre votre manière de penser et votre manière d'agir, vous n'en êtes même pas conscient. Je pourrais vous ramener aux choses, par exemple, des paradigmes qui sont culturels. En France, on a des paradigmes qui sont bien à nous, aux États-Unis aussi. Des manières de penser qui orientent notre manière d'agir. Et l'invitation pour l'Église, c'est de faire un changement de paradigme. C'est-à-dire de modifier profondément notre manière de penser afin que ça nous conduise à une manière différente d'agir. On revient aux sources donc, et on revient à Matthieu 28. Alors je lis 28, donc 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur dit ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier. » Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et si on revenait sur le premier énoncé de ce petit paragraphe, où Jésus s'approche d'eux, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre », on devrait mettre au lieu de « Allez donc », ce serait « en allant, faites des disciples ». Alors les paroles finales de Jésus, imaginez ce que c'est Jésus sur cette colline et là pour donner ses dernières paroles à ses disciples. Les derniers ordres. Est-ce qu'il y a des anciens militaires ici? Ouais, on sait ce que c'est les ordres, hein? N'est-ce pas?
Oui.
Vous allez dire, mais on n'est pas dans l'armée. Ben oui, vous êtes dans l'armée, frères et sœurs. Les ordres, c'est les ordres. Et dans l'armée ou dans le service militaire, il y a un certain ordre qui est le dernier ordre qui a été donné. Et en l'absence de tout nouvel ordre, on suit le dernier ordre qui a été donné, n'est-ce pas? Eh bien, quel est le dernier ordre que Jésus nous a donné? En allant, faites des disciples. Alors, pour construire un royaume, ça ne semble pas être la manière la plus évidente de construire un royaume qui allait littéralement aller dans tout le monde connu. On peut se dire, mais il est fou Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a pensé? 12 hommes et il y avait des femmes au milieu d'eux aussi. En fait, si vous lisez ces épîtres, c'était des gars, des filles, des personnes qui sont comme vous et moi, avec tous nos défauts. L'évangile ne manque pas de nous donner tous les travers de chacun des disciples. Est-ce vraiment comment ce royaume sera construit? Et il dit, en allant, faites des disciples. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus, en établissant son royaume, il nous en parle un petit peu, par exemple, dans Matthieu 13, où il dit que le royaume des cieux est comme un grain de moutarde. Ça semble insignifiant, ça semble très petit, ça semble comme... ça n'a pas d'importance ça, c'est pas grand. En fait c'est insignifiant. Mais ce que Jésus dit à ses disciples, c'est si un homme prend cette graine de moutarde la plus petite du jardin, et la plante il prend ce grain de moutarde et la plante, cela deviendra dans un jardin le buisson le plus grand et un endroit où les oiseaux viendront s'abriter. L'insignifiance qui conduit à ce que l'extraordinaire va faire au travers de Dieu. Et il y a un livre par Robert Coleman, alors je vous le recommande, il est en français, il a été traduit il y a à peu près 3 ans, c'est « Évangéliser selon le Maître ». C'est un homme qui doit avoir 90 ans actuellement, qui a beaucoup d'expérience dans faire des disciples. Et c'est un des domaines où il s'est vraiment spécialisé tout son ministère. Donc je vous recommande, évangéliser selon le Maître.
Mais lui, il dit dans ce livre que la stratégie de Jésus pour venir dans le monde, ça a commencé par son incarnation. Jésus est venu, Dieu s'est fait homme pour venir habiter au milieu de nous, sur cette terre. C'est-à-dire, cette incarnation est passée par l'insignifiance. Un bébé qui est né dans un étable, dans la partie de la maison où les bêtes sont toujours. Un bébé qui était obligé de partir avec ses parents en Égypte parce qu'un roi essayait de le tuer. C'est insignifiant ça. Mais Dieu travaille toujours dans l'insignifiance et il en fait quelque chose d'extraordinaire. C'est sa manière d'agir. Mais l'incarnation, ça nous donne quelque chose d'incroyable. Dieu, en Jésus-Christ, est venu marcher au milieu des hommes et des femmes. Marcher au milieu de nous. Il est entré pleinement dans la vie humaine. Pleinement. Et dans son entrée dans la vie humaine, il est aussi rentré dans les relations humaines. Les relations d'abord avec sa mère, Marie, avec son père, Joseph, avec le village dans lequel il avait grandi, son père était charpentier, dans le village où il a fait son apprentissage en tant que charpentier, et où il a bossé, travaillé, construit des maisons, construit des charpentes. Il est entré dans la vie humaine pour vivre la vie telle que nous la vivons. Et il y a quelque chose là-dedans pour nous, en tant qu'hommes et femmes qui sont appelés à former des disciples qui vont former d'autres disciples. Nous sommes, frères et sœurs, nous vivons d'une manière pleinement humaine. Nous sommes humains, d'abord, en relation avec les autres. Et des relations de proximité aussi. C'est tentant d'avoir une spiritualité qui nous sépare des autres. Parfois, c'est plus facile d'avoir un peu la tête en l'air, comme ça, et de ne pas voir les gens autour de nous, de ne pas voir ces pauvres pécheurs au milieu de nous, autour de nous. C'est tentant. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus est pleinement entré dans la vie en tant qu'homme. Il était entré dans les relations avec des personnes qui étaient les indésirables de ce temps-là. Les collecteurs d'impôts, Simon le Zélote, celui qui voulait tuer tous les Romains. Les prostituées se sentaient à l'aise de venir vers Jésus et demander la prière, de l'aide, demander la délivrance. Les enfants, ils allaient à la course vers Jésus. Vous savez, les enfants captent quand un adulte est ouvert dans son cœur aux autres. Ils le captent, les enfants. Ils regardent, ils disent, celui-là est ouvert, je cours vers lui. Et ceux qui ne sont pas ouverts, ils ne vont pas vers eux. Ils captent les enfants. Et les enfants du temps de Jésus, ils captaient que, ouais, lui, on peut courir vers lui. On peut lui demander de nous bénir. Et il va le faire. Qu'est-ce que Jésus est venu nous montrer? Ce Jésus, ce Dieu qui s'est fait homme, vous savez ce qu'il voulait nous montrer? Il voulait nous montrer comment vivre pleinement avec Dieu, Jésus, vivre avec Dieu, et vivre pleinement avec les gens qui sont autour de lui. La plénitude dans les deux domaines, la plénitude avec Dieu dans la relation avec Dieu, la plénitude avec les autres dans la relation avec les autres. Où on ne marche pas tout seul, mais en fait on marche avec d'autres personnes. On est au milieu d'un groupe, on est en train de blaguer comme eux, on est en train de parler comme eux, on est en train de rire comme eux. Jésus était comme ça. Tout le monde voulait aller le voir. Il attirait les gens à lui. Mais Jésus, il voulait nous montrer comment pleinement vivre notre relation entre fils et filles avec notre Père aujourd'hui. Et il voulait aussi nous montrer comment vivre notre relation les uns avec les autres dans la vie de tous les jours, dans la vie de notre Église. Et il y a une autre chose que Jésus a voulu enseigner à ses disciples, c'est ne pas vivre pour aujourd'hui. Ça, c'est une chose que j'aimerais vous... C'est un principe que j'aimerais vraiment que vous preniez cela. Ne pas vivre que pour aujourd'hui, mais vivre pour l'éternité. Pensez à ce que vous faites en pensant à l'éternité. Au lieu de penser simplement à aujourd'hui, demain ou après-demain, mais pensez à l'éternité. En 2003, avec ma femme, nous sommes partis en Afghanistan pour servir là-bas comme missionnaire. Et en arrivant là-bas, je suis aussi prof de fac. Donc là-bas, j'ai enseigné dans la faculté de Herat. Je formais des professeurs. Et il y a un jeune prof que j'ai rencontré, il s'appelle Aref. Et il est devenu un ami. Et dans cette amitié, dans ce partage de vie, il a vu Dieu agir. Un jour de Noël, là-bas, à Herat, en Afghanistan, j'allais faire un cours pour mes profs de la faculté, et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Il m'a dit, chante des cantiques de Noël, en Afghanistan.
Wow.
Là où c'est interdit, on se fait jeter, on se fait tuer. Mais donc, je suis parti pour la faculté avec ma guitare et avec ma Bible. On ne part pas tous les jours à la faculté en Afghanistan avec sa guitare et sa Bible. Mais je suis arrivé, je leur ai dit, écoutez, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est un disciple de Jésus. Je ne m'appelle jamais un chrétien dans les pays musulmans. C'est politique, chrétien. Je suis disciple de Jésus. Et alors, ils lui disent, ben oui, Philippe, on sait que tu es un disciple de Jésus. J'ai dit, mais chez nous, dans notre pays, on célèbre la venue de Jésus. J'ai dit, Issa Messire. Ah oui, Issa Messire, on connaît, il est dans le Coran, lui. J'ai dit, ben oui, on célèbre sa venue. En ce jour-là, j'allais chanter les cantiques de Noël. Je veux dire, il n'y a pas d'onction sur les cantiques de Noël. N'est-ce pas? Oh que si. Ce jour-là, ce qu'Aref a vu, ce jour-là, il a vu quelque chose. J'ai chanté un cantique de Noël, l'un des plus banals que nous ayons. Pas extraordinaire. Je ne chante pas très bien non plus. Mais la grâce de Dieu, c'est que ce jour-là, en chantant un cantique de Noël, pendant pas longtemps, la présence de Dieu tombe dans la pièce. Une manifestation de Dieu dans la pièce. La sainteté de Dieu. Et mes profs, ils étaient là comme ça, en train de se regarder. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont senti la présence de Dieu pour la première fois dans leur vie. Certains d'entre eux, c'était des musulmans sincères qui cherchaient Dieu, qui priaient. Et Aref, ce jour-là, il a vu, il a senti la présence de Dieu. Un mois plus tard, il est venu à la maison, il m'a dit, Philippe, je veux le livre. Et il a commencé à lire le Nouveau Testament. Mais ce jour-là aussi, quand il est venu parler avec moi, on a prié ensemble, et en fait, il est devenu disciple de Jésus-Christ ce jour-là. Et on a commencé à faire la vie ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble, il venait chez nous tout le temps. Il est devenu notre fils. Ma fille de 15 ans qui était là, avec nous, en 2003, elle l'appelait son grand frère, pour vous dire, il a fait la vie avec nous, il a découvert Jésus. Travailler pour l'éternité, c'est parfois mener à Christ des hommes et des femmes qui seront plus tard des personnes qui vont être tuées pour leur foi. Il a été tué pour sa foi il y a à peu près 4 ans en Afghanistan, il y a 5 ans en Afghanistan, à Ref. On a construit pour l'éternité avec ce jeune homme. Mais je me souviens du cheminement de ce jeune homme en tant que disciple. Où chaque fois qu'il était prêt à prendre de plus grands risques pour l'Évangile, il découvrait encore plus de Dieu et comment servir Dieu. Je me souviens du jour où il m'a dit, « Philippe, je dois dire à ma femme que je suis un disciple de Jésus. » C'est un moment très, 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 très dangereux. Sa femme fait partie d'une famille, son frère est policier. C'est une famille très religieuse. Il aurait pu être tué le lendemain. Mais il a partagé ce soir-là avec son épouse. Chaque fois qu'il prenait un risque, il grandissait avec Jésus. Je le voyais devenir de plus en plus mûr avec Jésus. Et chaque fois qu'il prenait un risque, il était prêt à en prendre un plus grand. Vous êtes prêt à prendre des risques? Vous êtes prêt à risquer tout? C'est peut-être le pari que Dieu va vous demander. Hein? Aref a appris à suivre Jésus-Christ en suivant ma femme et moi. Comme un fils. Il a mangé avec nous. Il a travaillé avec nous pendant 5 ans. Il nous a aidés à démarrer les ministères que nous avons démarrés, qui tournent toujours là-bas. Et il a grandi avec Jésus. Il n'est pas allé à l'école biblique. Non, non. Il a fait l'école avec nous. Il a suivi Jésus. Et je sais que ça a marché parce qu'en fait, il est prêt à mourir pour sa foi. La formation de disciples est le processus par lequel un chrétien fidèle, ayant une vie digne d'être imitée, s'engage pour une période prolongée auprès de quelques personnes ou d'une personne qui sont devenues chrétiens, dans le but d'aider et de guider leur croissance jusqu'à la maturité spirituelle, et les équiper pour que eux, à leur tour, puissent faire des disciples. Voilà le mandat, voilà l'appel de Jésus pour faire des disciples. Et il y a une chose que je retiens de être disciple, c'est un disciple est un apprenant à vie. Vous savez, souci en apprenant. Quelqu'un qui aime apprendre. Quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre. Mais vous savez ce qu'on a fait dans l'Église? On est devenus des chrétiens, et puis on s'assoit, on s'installe. Ça y est, je suis là. Gloire à Dieu, frères et sœurs, c'est chouette d'être avec vous.
on s'est assis sur nos acquis. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à être, frères et sœurs? Il nous appelle à être des disciples qui sont toujours en croissance. On ne va pas arriver sur terre. On va arriver lorsqu'on sera face à face avec Jésus. L'arrivée, elle est là. Sur la terre, c'est l'école de formation. C'est l'école de formation pour l'éternité. Mais sur terre, on est appelé à grandir. On est appelé à toujours réexaminer comment nous vivons, de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai besoin de remettre en question dans ma vie? On est toujours en train d'apprendre. On est toujours en train de lire. On est toujours en train de parler avec d'autres personnes, de parler de Jésus. Dieu nous invite à vivre comme un disciple, quelqu'un qui apprend. J'ai le privilège d'avoir un père qui a 92 ans, qui est toujours vivant. Il était en France, il a fait plus de 50 ans en France comme missionnaire. Et à 92 ans, il est aumônier Gédéon, il est pasteur dans une église. Il enseigne toutes les semaines. Et aux US, ils font l'école du dimanche pour les adultes, vous savez. Ce serait pas mal à faire ça. Hein. C'est-à-dire, l'église devient l'école aussi, de formation. Et mon père, les séries qu'il vous fait, c'est il vous fait les rois de l'Ancien Testament. Et il prend le livre des rois et il fait sur un an. Il enseigne du béton, mon père. Mais vous savez pourquoi? Il n'a jamais arrêté d'apprendre. À 92 ans, il lit toujours énormément. Je me souviens, il y a quelques années, il est venu au Niger. Je t'ai dit, un directeur d'hôpital à l'hôpital chrétien de Niamey. Et il est venu au Niger pendant 6 semaines pour être avec ma femme et moi. Et je le voyais dehors sur notre véranda, le moustiquaire autour de lui, parce qu'il y a des moustiques de partout, et il était assis en train de lire. Il lisait tout le temps. Il lisait l'histoire, il lisait des commentaires bibliques, il lisait les livres sur la maturité chrétienne, il lisait des livres sur la politique, il lisait des romans. Il était toujours en train de lire. J'ai compté, pendant qu'il était avec nous, 5 livres par semaine. Il était toujours en train d'apprendre. Sommes-nous des personnes qui sommes toujours en train d'apprendre? Parce que suivre Jésus en tant que disciple est un changement complet de paradigme. Non, un simple complément à une vie par ailleurs normale. C'est une nouvelle manière de vivre, parce que c'est une nouvelle manière de voir, de penser et d'être. Ça, c'est une citation de Tim Keller, un gars qui a sérieusement suivi Jésus. Je répète, suivre Jésus en tant que disciple est un changement complet de paradigme et non un complément de vie pour une vie d'ailleurs normale. C'est une nouvelle manière de vivre parce que c'est une nouvelle manière de voir, de penser et d'être. Alors, comment est-ce qu'on fait, frères et sœurs, pour faire des disciples qui vont faire des disciples? Comment je fais? Je cherche des jeunes qui sont enseignables. J'ai le privilège d'être un peu plus vieux que la plupart, et j'ai le privilège de travailler toujours avec des jeunes. Entre 20 et 40 ans, c'est l'âge que j'apprécie le plus dans la vie. J'ai envie d'investir dans ce groupe pour l'avenir de nos églises. Et je cherche toujours, je regarde, je vois quelqu'un, je dis, bon, je vais surveiller cette personne-là, je vais voir si elle est vraiment sérieuse avec Jésus. Je regarde, et puis je vais la voir, je dis, t'as envie d'apprendre? T'as envie d'être disciple? T'as envie toi-même d'être quelqu'un qui peut former des disciples? Tu veux pas venir avec moi? Apprendre? Ah ouais, moi je veux.
Quand vous cherchez des personnes pour les former, vous êtes à la recherche des personnes qui sont aptes à être enseignées, qui sont aptes à recevoir et qui sont prêts à réexaminer leur vie avec un barème, avec un protocole complètement différent. C'est ça, être un faiseur de disciples. Et quelles sont les paroles de Jésus ? Il dit, en allant, faites des disciples. Et il leur dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, nous allons faire des disciples jusqu'à la fin du monde. Parce que ces disciples, ils vont aller où? Ils vont servir qui? Ils vont être avec qui? Avec leur Père. Donc, êtes-vous prêts à changer radicalement votre manière de vivre? Et on va en parler un peu plus dans le week-end. Mais êtes-vous prêts à radicalement changer tout ce que vous faites? La manière que vous passez votre temps, la manière que vous dépensez votre argent, la manière que vous accumulez les choses dans votre vie et la manière que vous meublez votre vie de choses qui ne sont pas nécessaires. J'entends pas de amen là. Mais c'est là où il faut répondre amen, frères et sœurs. Amen. Et c'est, le amen, c'est ainsi soit-il, Seigneur, dans ma vie. Ainsi soit-il dans ma vie, Seigneur. Donc, je vous laisse avec ça pour démarrer. D'accord ?
Amène-toi.